Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, retour sur le tube de l'été 2009. Cette chanson, c'est Listomania de Phoenix, sortie sur l'album Wolfgang Amadeus Phoenix. Les quatre Français font référence à celui qui fut la première rockstar de l'histoire de la musique. Bien avant Elvis, bien avant les Beatles, celui qui déchaînait les foules, c'était un compositeur romantique, Franz Liszt. Une référence étonnante des quatre Français qui va leur permettre, à leur tour, de déchaîner les foules. Comment cette chanson a-t-elle marqué un tournant dans la carrière de Phoenix ? Comment passe-t-on d'un compositeur classique à un tube qui fait danser des millions de personnes ? Échauffez vos doigts de virtuose et préparez-vous à partir en tournée dans le monde entier. Reprenons du début. Phoenix est né à Versailles. Comme pour R, c'est dans la ville royale qu'a commencé la carrière des quatre garçons. C'est même dans la cour de récréation qu'elle a débuté dans les années 90. Thomas Mars, le chanteur, Dec Darcy, le bassiste et Christian Mazalay commencent à jouer ensemble au collège. Les trois copains sont rejoints par le grand frère de Christian Mazalay, Laurent Brankowitz. Lui, il participait de son côté à Darling, un groupe avec Thomas Bangalter et Guy Manuel de O Même Christo, qui ont ensuite créé un groupe tous les deux. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle Daft Punk. Les quatre garçons de Phoenix, eux, sortent leur premier single il y a 21 ans et un premier album United en 2000 avec les titres Too Young ou If I Ever Feel Better. L'album est remarqué dans les pays anglo-saxons, mais chez nous, c'est plus compliqué. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les critiques ne sont pas tendres avec ces quatre Versaillais qui chantent en anglais. Le Monde s'agace du battage fait outre-Manche autour de ce quatuor. Et si le chroniqueur du journal reconnaît du charme à certaines chansons, ces jeunes Français et leur gymnastique ludique finissent par manquer cruellement de substance émotive. Pour Libération, Phoenix, c'est une bulle d'air, son et image. On ne fait pas plus amène. Jeunesse civile, calme et enjouée, ouverte et capable. Libé, qui utilise même le terme péjoratif de musac pour qualifier l'album, mais qui lui trouve quand même un point positif. Au-delà de la candeur communicative, la chose tangible dans toute cette poudre de perlimpinpin est au moins la voix. Les Inrock, eux, se laissent emporter malgré tout avec un compliment qui n'en est pas tout à fait un. Phoenix a beau forcer tous les traits et empiler clichés et manières forcées, il est une chose qui, en dépit de tout, le sauve, ses chansons. Malgré tout, Phoenix continue avec un deuxième album, Alphabetical, puis un troisième, It's Never Been Like That, et nous voilà à la fin des années 2000. Pour ce quatrième opus, il travaille longtemps, très longtemps, avant de trouver le bon endroit, la bonne inspiration. Comme le chanteur Thomas Mars le raconte dans le documentaire « From a Mess to the Masses », qui raconte la création de l'album.
We did it in Paris during a year and a half and
on l'a enregistré à Paris en un an et demi. Avant, on a tout essayé. On rêvait de faire comme Truffaut, écrire dans une chambre d'hôtel. Donc on a loué une chambre d'hôtel à New York. Ensuite, on a loué une péniche sur la Seine, mais rien n'a fonctionné.
And basically everything we tried didn't really work out.
Après ça, on n'avait plus d'argent, donc on a dû demander à un ami, Philippe Sdard.
Philippe Sdard, qui est mort en juin 2019, c'était l'une des moitiés du groupe Electro Cassius, mais aussi l'un des producteurs français les plus importants de ces dernières années. Il a collaboré, entre autres, avec MC Solar, les Beastie Boys, Sébastien Tellier, Christophe. Et donc, avec Phoenix, il avait produit leur premier album. Il se retrouve, un peu par hasard, à travailler sur le quatrième. Le groupe s'installe dans son studio et un jour, environ 8 mois après, Philippe Sdard passe, il veut récupérer une valise. Les musiciens bloquent sur un morceau, Zdar leur demande d'écouter. Ce morceau, c'est Listomania, il deviendra l'ouverture de l'album et les conseils d'amis se transforment petit à petit en un véritable travail de production.
C'est la première fois qu'ils m'ont demandé ce que je pensais d'un morceau. J'étais passé vraiment par hasard. On s'est tout de suite, bon, on se connaissait depuis longtemps, mais j'étais pas censé travailler sur le disque, juste venir donner une ou deux idées. Et en me faisant écouter ce morceau, qui était plus ou moins comme il est, que je trouvais complètement dément, mais au niveau de la structure, un peu plus ardu à rentrer dedans. Parce que, par exemple, il y avait cette partie-là qui était très très courte. Et le morceau s'enchaînait continuellement. Enfin, je leur ai proposé de mettre ça en boucle, de changer deux, trois petits trucs de structure, et on s'est tout de suite senti bien.
Et grâce à Philippe Zdar, la situation se débloque. Dec Darcy.
En fait, c'est le premier morceau qu'on a gardé. En tout cas, on en a fait plein avant. On a dû en faire une dizaine. Mais celui-là, je crois que c'est à partir de celui-là qu'on a commencé à garder les morceaux qu'on a fait.
Suivront 8 autres chansons, dont le deuxième tube de l'album, 1901. Mais revenons sur cette chanson Listomania. Elle fait référence à Franz Liszt et au succès qu'il a rencontré. Mais ne cherchez pas une biographie complète du compositeur dans le texte, il est seulement évoqué avec des phrases comme, attention c'est traduit, comme une émeute, indiscutablement romantique, ça vient puis repart, ou de la pagaille au mas, from a mess to the masses. Il faut dire que d'une manière générale, les paroles de Phoenix sont floues. Thomas Mars explique que c'est volontaire.
What we like in lyrics in general is that very cryptic.
Ce qu'on aime avec les paroles, c'est que ça soit mystérieux. Parce que c'est comme ça qu'on a découvert la musique. On avait 13, 14 ans et on entendait de l'anglais. Même Serge Gainsbourg, c'était très mystérieux. Vous pensez que ces gens parlent de votre vie. C'est ce qu'on veut retrouver.
Des paroles volontairement évasives et puis la création d'un morceau chez Phoenix, c'est un petit peu un puzzle, un assemblage. Laurent Brankovitz.
On a beaucoup travaillé en fait avec des petits dictaphones dans 5 lieux différents je crois pendant un an et demi et on a écrit quelque chose comme on avait plus de 1000 bouts de chansons et donc par exemple là ce couplet c'est un mélange de 4 bouts ou 5 bouts je crois. On a vachement travaillé par collage en fait. Qui a écrit quoi, c'est impossible de le savoir.
La biographie de Franz Liszt, c'est donc moi qui vais vous la faire. Le pianiste, compositeur, transcripteur, chef d'orchestre, professeur, tout ça, oui, a vécu de 1811 à 1886. Il est né dans ce qui est alors la Hongrie, aujourd'hui c'est l'Autriche. C'est un enfant prodige du piano dont la carrière se développe rapidement dans toute l'Europe. Sa vie est marquée par des amours avec des femmes inaccessibles. Caroline de Saint-Cricq, dont le père ministre ne supporte pas qu'elle fréquente un artiste. La comtesse Marie d'Agoult, avec qui il aura 3 enfants hors mariage, puis Caroline de Sayn-Wittgenstein. La vie de Franz Liszt est marquée par des crises mystiques à tel point qu'il la terminera comme l'abbé Liszt après s'être engagé chez les franciscains. Et toujours dans cette vie, la musique, avec notamment de très nombreuses transcriptions pour piano, d'œuvres pour orchestre comme la 5e symphonie de Beethoven, des transcriptions qu'il ne faut pas prendre pour des sous-œuvres. Des transcriptions, mais aussi des pièces originales qui réclament une véritable virtuosité. Écoutez ce jeu d'eau à la Villa d'Est. Quand on écoute ce morceau, les jets d'eau apparaissent. Franz Liszt, c'est l'artiste romantique par excellence et sa musique lui assurera une postérité et une influence sur la musique de tous ceux qui suivront. Voici un nouveau jeu d'eau par Maurice Ravel, compositeur français de la fin du 19e et du début du 20e siècle, dont l'œuvre éclectique est influencée par la période classique française, le jazz, la musique espagnole, c'est le fameux boléro, et donc par Franz Liszt. Cette postérité et cette influence, c'est parce que Franz Liszt a beaucoup apporté à son art. Il est par exemple le premier à défendre le concept de musique à programme, une musique qui veut raconter une histoire, parfois la partition est accompagnée d'un texte. Ce concept de musique à programme, il passe par une forme qu'il développe. Cette forme, c'est le poème symphonique, une composition pour orchestre en une seule partie. Parmi les plus célèbres, on peut citer « Ainsi parlait Zarathoustra » de Richard Strauss, Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgski ou La Moldao de Smetana. Transcripteur, compositeur, mais c'est pour ses fabuleux talents de pianiste qu'il est acclamé et qu'il devient une véritable vedette de son vivant. C'est la fameuse listomania. On lit parfois tout et n'importe quoi sur le sujet, il y a beaucoup de légendes. Je suis donc allé interroger Jean-Yves Clément, biographe de Franz Liszt et directeur artistique du festival Listomania qui a lieu tous les ans fin octobre à Châteauroux. J'ai commencé par lui demander d'où venait ce terme.
En fait, l'origine du mot exactement, c'est listomanie, et c'est un terme très précis inventé par le perfide et néanmoins écrivain franco-allemand Heinrich Heine dans les années, je crois, 1840 ou un peu avant, au fort de la grande gloire de Liszt. Et il voulait se moquer par là de ce phénomène contagieux d'hystérie, souvent féminine, dont était empreint ce phénomène Liszt, comme ça, qu'on découvrait. Rappelons que Liszt a été le Michael Jackson de l'époque, une rockstar, et qu'à lui tout seul, en 1840, donc précisément, il a inventé le terme de récital, c'est-à-dire cette façon monomaniaque de se mettre seul en scène. Mais l'intérêt de Liszt, c'est que lui jouait les autres, donc il y avait un côté serviteur dans cette démarche.
C'est ce qu'on appelle la Glanzperiode, je crois, la période de gloire. Entre 1839 et 1847, il se lance dans une série de concerts. Pourquoi est-ce qu'il se lance dans cette série de concerts?
Pour se faire connaître, c'est un virtuose hors norme. Personne n'a entendu un pianiste de cette qualité-là. Donc il franchit les frontières. Il est le premier à jouer devant des salles gigantesques, à Ascad, Milan ou ailleurs. En plus, en apostrophant le public, en lui demandant d'improviser sur des thèmes choisis. Enfin, tout ça est neuf et nouveau. Et finalement, il fonde un statut qui perdure jusqu'à aujourd'hui, celui du musicien roi, soliste, adoubé par les foules. Un statut que pourtant lui-même a rejeté, puisqu'il faut savoir que Liszt, au terme de sa période de gloire, arrêtera le concert pour passer à des choses plus sérieuses, entre guillemets, la composition. Donc à 35, 36 ans, il n'y a plus de carrière de Liszt.
Effectivement, sur la forme, c'est quelque chose qu'il invente seul en scène, avec un piano de profil pour qu'on puisse le voir. D'ailleurs, c'est une belle personne, ce qui a sans doute joué aussi. Il jouait de mémoire, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Enfin, c'est très novateur tout ça.
Oui, c'est novateur, c'est nouveau. Il invente tout d'un coup. Ce que vous dites est une façon d'être en scène, comme ça, de charismatique. Mais il faut se rendre compte qu'on ne connaissait rien de tel à l'époque. Ni ce spectacle, ni ce côté showman, et ni cette musique un peu délirante qui excitait les nerfs. Donc ça faisait beaucoup en même temps. En plus, on l'a dit, il était beau. Voilà, les femmes étaient un peu coincées par la bourgeoisie régnante. Bon, Liszt était leur rebelle et leur sauveur. Hein, c'est ça, il n'y avait pas le cinéma à l'époque, il n'y avait pas les mauvaises séries. Donc il y avait Liszt.
Alors comment ça se manifeste, cette espèce de maladie lycéenne? Il y a des histoires qui circulent, des femmes qui se battent pour un gant, qui veulent récupérer le fond de ses tasses de café, ses cordes de piano cassées pour s'en faire des bracelets, même ses mégots de cigares pour en faire des médaillons. Est-ce que tout ça, c'est vrai ou ça fait partie de la légende de Franz Liszt?
J'y étais pas. Mais comme dans toutes ces légendes, ces mythes, il y a une part de vérité et de fantasme. Ça va aussi avec le genre, avec l'hystérie. La vérité, c'est qu'il est effectivement très beau, très séduisant, qu'il plaisait aux femmes et qu'il invente ce système qui fait qu'on l'adule, qu'on l'idolâtre. Liszt fascine. Une fois qu'un piano était cassé, il était venu à bout, il poussait l'instrument, un autre venait sur scène. C'est un côté tauromachique dans tout ça. Mais encore une fois, c'est aussi pour faire de la musique. Et l'intérêt, c'est que Liszt, avec sa façon orchestrale, opératique, théâtrale, nouvelle de voir le piano, il fait aussi avancer la facture de l'instrument. Avec Liszt naît un piano plus moderne et bientôt définitivement moderne grâce à la marque Erard dans les années 1860. Donc Liszt, il est à l'origine de tout, d'une façon nouvelle de faire la musique, de la donner, mais aussi d'un instrument qui va aboutir au piano moderne.
Comment est-ce qu'il le prenait, ce statut de rockstar? Est-ce qu'il en jouait? Est-ce que ça lui plaisait? Ou au contraire,
il le regrettait.
Mais c'est presque le contraire. Parce que de même qu'il s'en servait pour servir les autres, il n'aimait pas ce côté, mais comme il disait, ménestrel, valet, saltimbanque, tous ces termes sont dans sa correspondance. Il savait qu'il arrêterait un jour parce que tout ça le fatiguait. Rendez-vous compte qu'en 10 ans de période de gloire, Liszt a franchi 100 000 kilomètres et a donné plus de 1 000 concerts en empruntant les diligences de l'époque. Il n'y avait pas encore le chemin de fer. C'est hallucinant quand on y pense. Donc il s'y épuisait. Il y passait toute son énergie. Il fallait bien qu'un jour ça s'arrête, sinon il serait mort sur scène.
Sur les raisons de l'arrêt de cette tournée, il était trop fatigué, il en avait marre.
Ah non, c'était très défini. Il arrive à la moitié de sa vie et il voulait surtout passer enfin plus sérieusement à la composition. En plus, ça coïncide, comme souvent dans la vie, à la rencontre de la deuxième femme de sa vie. Après, la comtesse d'Agou, il va rencontrer la princesse Wittgenstein. Et cette rencontre va aller de pair avec un approfondissement de sa vie dans tous les sens du terme, religieux aussi, puisqu'on sait qu'il ira jusqu'à emprunter les ordres mineurs en 1865. Donc c'est vraiment une deuxième vie pour lui, résolument. Il n'a jamais regretté d'avoir franchi le cap. Et rappelons-nous que Liszt, toute sa vie, a donné des concerts de charité, et ça, il continuera à le faire. C'est lui qui jouait dans les asiles, les prisons, et là aussi, il a tout inventé.
Venons-en à la chanson de Phénix. Déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez écoutée il y a 10 ans?
Oui, ça m'intéressait à l'époque où j'étais commissaire de l'année Liszt en 2011. Et je m'étais intéressé à ce groupe, à ces gens, parce que je trouve que la chanson est belle, bien faite, harmoniquement, c'est intelligent. Bon, on sent que c'est des jeunes gens un peu accomplis. C'était pas du tout débraillé, justement. Donc, ça me plaisait. J'ai essayé de m'en rapprocher, mais en fait, ça s'est pas fait. Liszt dépasse les genres, les bornes, les possibilités, donc il faut essayer de réunir toutes ces bonnes volontés quand elles sont de qualité, quand on prétend diriger un festival, donc c'était aussi l'optique. Mais un jour peut-être, oui, ça me plairait. On a les Listomania en 20 ans en 2021, et ben j'ai qu'à inviter Phénix, voilà.
Dernier point, est-ce que vous considérez qu'il a la, Franz Liszt, il a la reconnaissance aujourd'hui qu'il devrait avoir?
Non, pas encore. Mais c'est souvent ça un peu avec les messies, les prophètes, surtout quand ils vont dans toutes les directions. Ils sont un peu dispersés et on n'arrive pas à les, surtout en France, on n'arrive pas à les ranger quelque part pour cause. Et en fait, ça les dessert paradoxalement. Mais quand même, on en parle de plus en plus et son temps viendra à l'échelle de l'humanité. C'est rien, 100 ans.
Merci Jean-Yves Clément d'avoir répondu à mes questions.
C'est moi qui vous remercie.
Le terme listomania, c'est donc une référence claire par Phénix à la musique classique. Cette référence, elle n'est pas la seule puisque cet album s'appelle Wolfgang Amadeus Phénix. Arrêtons-nous un instant sur ce titre. Est-ce qu'il s'agit de quatre mélomanes qui rendent hommage à leur idole? Eh bien, pas vraiment. La musique classique influence les créations de Phénix, ils le reconnaissent, mais comme d'autres genres musicaux, voici ce que dit Laurent Brankovitz sur France 24.
C'est plus renoué avec notre patrimoine d'Européens. On navigue, nous, dans un domaine où, qui est quand même dominé par les Américains, les Anglais. Et donc, revenir à l'Europe, tous ces thèmes de culture européenne, c'est quelque chose qu'on a fait presque inconsciemment, mais on se rend compte, là, maintenant qu'on a fini le disque, qu'il y a cette idée de proposer une alternative au delta du Mississippi.
La volonté, en citant Mozart et Liszt, c'est d'être provocant. Voilà ce que déclarait dans un quotidien luxembourgeois Dec Darcy. C'est plutôt une référence au personnage, une façon de revendiquer nos racines européennes. Mozart, on l'a pris comme le symbole le plus grand de la culture européenne. On l'a vandalisé en mettant notre nom. Vandalisme, c'est aussi le terme qu'utilise Laurent Brankovitz dans un webzine. C'était dans l'idée d'entrechoquer des choses qui n'ont aucun rapport. Comme quand Jeff Koons place une statue de Michael Jackson à Versailles. C'est une idée de contraste, un peu enfantine, certes limite pop art. C'est cela l'idée de Wolfgang Amadeus Phénix, un acte de vandalisme en quelque sorte. Après, pourquoi la musique classique? On n'y a même pas réfléchi, cela fait partie de notre mythologie. Aux États-Unis, c'est Andy Warhol et Marilyn Monroe. Pour nous, Européens, c'est Franz Liszt et Mozart. L'idée de parler de ça, c'était assez moderne. Au lieu de parler de Cadillac, ça nous a fait jubiler. Ce côté provocation, transgression, on le retrouve aussi sur la pochette qui représente 3 bombes en train d'être larguées. Mais bon, il faut bien dire qu'on fait quand même plus trash et plus rebelle que Phénix. Et cet album, ça n'a pas déclenché de scandale, de nouvelles querelles des anciens et des modernes. Quelques critiques ont bien estimé qu'ils n'étaient pas les Mozart de la pop. Certaines ont relevé l'ironie, mais rien de plus. Les membres du groupe eux-mêmes l'ont reconnu en 2017 pour l'album Ti Amo, très influencé par l'Italie. Un journaliste leur demande s'ils comptent l'appeler Giuseppe Phoenix ou Claudio Phoenix, comme Giuseppe Verdi et Claudio Monteverdi. Réponse, on n'allait pas refaire le coup une deuxième fois. D'autant plus qu'on était persuadé qu'on allait se faire lapider lorsqu'on a appelé notre album Wolfgang Amadeus Phoenix. Mais c'est passé comme une lettre à la poste. On a été très déçus. Mais c'est quand même un bon titre. De la provoque donc, mais pour Listomania, il y a aussi un peu de nostalgie, comme l'explique Thomas Mars. List, c'était la première rockstar de l'histoire. Les filles l'adoraient. Elles jetaient leurs gants sur scène quand ils jouaient. J'aimerais que les concerts classiques soient encore comme ça. Je me souviens d'un concert du pianiste Alfred Brendel où le portable d'une fille habillée comme une Versaillaise s'est mise à sonner. Tout le monde a cru que c'était moi parce que j'étais mal rasé. Le public, plein de haine, criait dehors. Brendel s'est arrêté, il a regardé le ciel et il m'a maudit. Dans cette idée de sale gosse qui s'amuse avec un monument de la culture, le clip de Listomania a été tourné au musée Franz Liszt de Bayreuth en Allemagne. Tournage facilité par le fait que le réalisateur de la vidéo s'appelle Antoine Wagner, descendant non pas de un mais bien de deux géants de la musique, de Richard Wagner et de Franz Liszt lui-même, puisque la fille de Franz Liszt, Cosima, a épousé Richard Wagner. Le clip a dépassé les 16 millions de vues sur YouTube, c'est bien au-delà des autres vidéos du groupe. Antoine Wagner, c'est aussi lui qui a réalisé le documentaire dont j'ai tiré des extraits, From a Mess to the Masses, phrase de la chanson Listomania qui s'applique en réalité autant à Liszt qu'à Phoenix, parce que cette chanson, elle a été quasiment prophétique. Avec Listomania et 1901, Phoenix a atteint une notoriété internationale. Ils sont devenus un groupe de premier plan. Ils ont enfin été acceptés par la critique dans leur pays. Marque de ce nouveau statut, c'est le premier groupe hexagonal à participer au Saturday Night Live de NBC, émission culte outre-Atlantique, c'était avant même la sortie de leur album. C'est aussi le premier groupe français à jouer au Madison Square Garden, et pour marquer le coup, ils ont invité de vieux amis. Vous aurez sans doute reconnu les Daft Punk. Wolfgang Amadeus Phoenix est en bonne place dans tous les classements des meilleurs albums de l'année 2009 et il obtient même une récompense prestigieuse.
And the Grammy goes to
Wolfgang Amadeus Phoenix.
Le Grammy Award du meilleur album de musique alternative. Plus de 720 000 disques sont vendus aux États-Unis. En France, il est disque d'or. La sortie de Wolfgang Amadeus Phoenix a été suivie par une tournée internationale avec des concerts au Canada, en Australie, au Mexique. Bref, on peut parler de Phoenix Mania. C'est d'ailleurs le titre d'un article de Rolling Stone qui qualifie ces quatre garçons de rockstar. La boucle est bouclée. Pour résumer cet épisode, le groupe Phoenix a voulu provoquer en se réappropriant des grands noms de la musique classique pour leur album de pop. Et avec leur chanson sur la folie déclenchée par les concerts de Franz Liszt, eh bien, ils déclenchent à leur tour un phénomène de masse. Ce goût de la provocation ne les a d'ailleurs pas quittés puisque Phoenix a sorti un livre sur sa carrière en octobre dernier. Son titre, Liberté, Égalité, Phoenix. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez sur l'article dédié à cet épisode les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité et une biographie détaillée de Franz Liszt. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt !